Bonjour Ludovine de la Rochère.
Bonjour Richard.
Alors, vous êtes présidente du syndicat de la famille et vous venez nous parler des dernières décisions du Comité consultatif national d'éthique.
Alors, à vrai dire, j'aimerais que ce soit une décision du CCNE. Mais en tout cas, auditionné en mars, donc il y a quelques jours, par le Comité consultatif national d'éthique. Alors, en employant le mot éthique, j'ai une petite hésitation pour ce qui concerne le CCNE, mais passons. Et j'ai pressé son président et ses membres d'user enfin de leur influence dans le bon sens, en l'occurrence pour faire interdire les bloqueurs de puberté et les traitements de transition sexuelle jusqu'à 25 ans. Et justement, une étude majeure conduite en Finlande a été publiée cette semaine. Elle a évidemment confirmé les arguments que j'avais exposés au CCNE. Je dis « évidemment » parce que quand on sait en quoi consistent ces traitements, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient bénéfiques.
Alors, qu'en est-il justement de ces bloqueurs de puberté?
Alors donc, ces bloqueurs de puberté sont utilisés pour des préadolescents, par définition, vers l'âge de 10-12 ans en moyenne. En fait, ce sont donc des enfants qui sont mal dans leur peau et qui pensent être nés dans le mauvais corps. Je mets des guillemets naturellement. Une idée qui n'a rien de scientifique, mais que les transactivistes, les militants trans, propage auprès des jeunes, et y compris à l'école, et y compris via le fameux programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, le fameux EVARS. Et alors des médecins, enfin si on peut les appeler médecins, leur prescrivent dans ce cas des bloqueurs, l'objectif étant que l'intéressé ait le temps de réfléchir à son identité et de confirmer ou non s'il veut transitionner ou rester ce qu'il est et appelé à devenir. Alors les molécules utilisées, des analogues de la gonadotrophine, je ne rentrerai pas dans les détails, conduisent l'organisme à s'arrêter de produire des hormones sexuelles et donc arrêtent la puberté. Or ces molécules ont des autorisations de mise sur le marché qui suivent par conséquent des études cliniques, mais pour d'autres indications comme certains cancers, les fibromes, etc. Et, très important, elles ne peuvent être prescrites que pour une durée de 2 ans, grand maximum. Mais des médecins les font prendre tout de même à des jeunes de la préadolescence jusqu'à leur transition, soit bien au-delà de cette durée de 2 années. Or, on sait que leur densité osseuse future sera affectée et sans doute aussi leur développement neurologique.
Alors, quand une personne arrête de prendre les bloqueurs de puberté, est-ce que la puberté reprend là où elle en était ?
Et non, pas du tout. Le développement de l'être humain n'est pas un DVD ou une vidéo qu'on arrête, qu'on relance à volonté. Au-delà de 2 années, la puberté ne se fera plus complètement. Les organes sexuels ne se développent plus normalement et la fonction sexuelle est atteinte. Ce qui s'ajoute aux autres conséquences sur la santé que j'avais déjà évoquées.
Mais alors, en quoi consistent les traitements de transition ?
Alors, la suite, quand malheureusement un jeune est rentré dans cet engrenage, il faut savoir que quand il y est rentré, généralement, il va poursuivre. Et cette suite, elle est de 2 ordres, hormonal et chirurgical. Alors, pour ce qui est des hormones, il s'agit logiquement d'hormones masculines ou féminines de synthèse qu'on va utiliser pour déféminiser puis viriliser, ou à l'inverse, déviriliser puis féminiser. Alors, je dois dire qu'avec la propagande actuelle, l'impact se porte davantage sur des jeunes filles. Ce sont plutôt des filles, un peu comme l'anorexie, qui sont concernées par ce type de processus d'engrenage. Et alors là encore, ces hormones ont des autorisations de mise sur le marché pour certains cancers, pour la préménopause, etc. Et leur prescription hors dehors de ces indications, mais donc aussi les jeunes en danger. Il n'y a pas eu d'études cliniques qui ont précédé ce détournement des objectifs, des indications. Et par exemple, le risque d'accident cardiovasculaire serait multiplié par 7 avec ces traitements, qui sont donc potentiellement mortels, ce type d'accident. Et en outre, certains des effets de ces molécules sont irréversibles, ce que généralement les jeunes et leurs parents ne savent pas. Et par exemple, sur la voix, sur la pilosité et sur la fonction sexuelle. Une petite jeune fille qui prend de la testostérone, même si elle s'arrête quelque temps plus tard, gardera de toute façon toute sa vie une voix d'homme. Et pour en avoir rencontré, croyez-moi, une femme qui a une voix d'homme, ça fait vraiment un drôle d'effet. Et toute sa vie, elle portera ce stigmate.
Alors, vous nous avez parlé de la transition hormonale, mais il y a aussi une transition chirurgicale.
Alors là, il s'agit d'abord, premièrement, de l'ablation des organes sexuels. On parle de lourds, très lourds, organes sexuels primaires et secondaires, donc pénis ou testicules, et testicules, ou alors seins, éventuellement ovaires et utérus. Deuxièmement, il s'agit de la reconstruction de néo-organes, par exemple un néopénis, qui va être constitué à partir du clitoris gonflé par la prise de testostérone. Pardon, c'est pénible à entendre.
Mais c'est surtout, ça paraît frankensteinien.
Absolument. Mmh. Mais il faut bien le dire, et il faut dire tout haut ce que les transactivistes taisent, évidemment. Et puis troisièmement, il y a ensuite des interventions esthétiques, mais qui sont lourdes également, de féminisation ou de masculinisation du visage et du corps. Par exemple, chez un garçon, on va raboter la pomme d'Adam, ou chez une fille, on va accentuer les mâchoires, augmenter le menton, etc., etc. Ces interventions sont donc irréversibles. Et ces jeunes que l'on ose mutiler par idéologie, et pour l'argent bien sûr, ne redeviendront plus jamais ce qu'ils étaient. C'est absolument criminel d'embarquer des jeunes dans cet engrenage.
Alors, si on leur fait subir tout ça, si on leur fait prendre des risques aussi incroyables, est-ce qu'au moins, ensuite, on sait qu'ils se sentiront mieux, que leurs souffrances psychiques vont s'atténuer, que leur mal-être les avait amenés à cette transition va s'atténuer ?
Hélas, non. Alors, cette souffrance liée à l'identité sexuelle survient parfois pendant l'adolescence. J'allais dire, ça n'est pas nouveau. Et jusqu'à présent, et quand on a un certain bon sens, on accompagne le jeune pour comprendre ce qu'il se passe, pour soulager sa souffrance. Et dans ce cas, l'idée de transitionner passe d'elle-même dans plus de 90% des cas. Je parle bien d'aujourd'hui, hein, en dépit de la propagande actuelle. Mais ce mal-être des adolescents est instrumentalisé par des idéologues qui estiment, vous le savez, les éditeurs de Radio Courtoisie le savent, que chacun devrait choisir son identité de genre quitte à transitionner, que nous ne serions pas homme ou femme, ce serait des identités assignées à la naissance, l'humain ne serait d'ailleurs pas forcément homme ou femme, etc., etc. Et donc ils utilisent la souffrance de jeunes en mal-être en les poussant vers cela, en prétendant que cela les sauverait d'un risque de tentative de suicide. C'est ce qu'ils prétendent.
Effectivement, c'est terrible. Vous parliez d'une étude qui venait de sortir. Alors, quelle est cette étude? Comment se la procurer?
Alors, vous la trouverez assez facilement, par exemple, sur le site du site internet du syndicat de la famille. En l'occurrence, cette étude est très importante parce qu'elle a été menée sur une cohorte nombreuse et sur une longue durée. Donc, des scientifiques ont recueilli les données de tous les adolescents concernés par une dysphorie de genre, ce qu'on appelle une dysphorie de genre, une hésitation sur leur identité sexuelle, donc en Finlande et sur une durée de 25 ans. On parle là de 2083 adolescents. Or, leur étude montre que non seulement les problèmes psychiatriques ne sont pas améliorés, allégés par la transition, mais au contraire, ils sont très nettement accentués. Et cette étude est très importante parce qu'elle montre sans conteste possible que pousser vers la transition est une catastrophe et criminelle, je le disais. Le CCNE doit donc en effet, et au plus vite, intervenir auprès de nos gouvernants pour interdire les bloqueurs de puberté et les traitements de transition, et ce jusqu'à 25 ans, impérativement.
Voilà, merci beaucoup Ludovine de la Rochère.
Merci Richard.